la semaine dernière dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les amis.
Salut Charline.
On a encore un peu de travail sur les florilèges.
Encore, mais on a déjà tellement bossé.
Aider à choisir nos invités gold.
Ah, ça n'a pas du tout marché, notre histoire de grève.
Il reste plus qu'une seule solution, Guillaume.
Aujourd'hui, nous avons le parfait exemple d'une belle paire.
De l'os.
On ne peut pas faire ça, Alex. Pas les blagues des grosses têtes. On va la perdre pour la suite de l'année présidentielle.
C'est le but, Guillaume.
Une belle paire d'invités. Donc, Salvatore Adamo, Anna Moglalis, donc la tradition, la douceur, qui rencontre l'élégance, la féminité, le talent.
Elle avait bien envoyé la mère Moglalis.
Il a raison. Grâce à notre émission, on a entendu Anna Moglalis d'une autre façon. Et vous voyez, c'est ça, Par Jupiter, c'est aussi les florilèges. Et justement, qu'est-ce qu'un bon florilège?
Qu'est-ce qu'on fait, Alex, là?
On va chercher le coussin, Peter.
Tu vas la tuer.
Mais ça va, les garçons, là, je vous dérange pas. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas, là?
Charline, est-ce que tu connais la blague?
Je te laisserai pas faire ça, Alex.
Elle est excellente.
Oui, Charline, tu demandais donc la différence entre un bon florilège et un mauvais florilège.
Bah oui, et donc
un bon florilège, c'est un florilège avec des blagues de
tête.
Attendez, à votre avis, c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise conférence de rédaction?
Une bonne, c'est quand Alex il écrit une bonne chute.
Ce sera pas celle-ci. Ouais.
J'avoue, ça je l'ai senti en fait.
Depuis le début.
France Inter et bienvenue à l'écoute des Florilèges de Noël, cet espace qui retire les marrons de la blague du feu de l'actualité. Nous avons fouillé dans les archives de notre émission pour retrouver deux dossiers qui se sont bonifiés avec le temps. Salvatore Adamo, que nous avions reçu en 2018, et Anna Moglalis en 2019, avec notamment un sketch mémorable. Une émission garantie donc sans pandémie. Et avec des discothèques ouvertes. Quant aux chroniques, Alex, vous avez choisi celle qui nous ramène au présent.
Oui, mais pas que. Comme tous les jours, parce que Mélanie Bauer, elle avait dû traiter du sujet Salvatore Adamo. Et c'est pas sa zone de confort, il me semble-t-il. Guillaume Meurice, lui, était dans la sienne, puisqu'il s'est rendu au congrès des maires de France. Et c'était à l'époque, 2018. Et puis, pour les deux autres, je reviens dans le présent avec Aymeric Lomprey, qui veut changer les choses. J'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chronique, avec le même résultat. Il n'y a pas grand-chose qui change. Et on terminera par du Frédéric Fromet, qui nous donne pas une grosse info, puisqu'il chante « Tu mouriras ».
Vous permettez, monsieur, on démarre cette émission avec Salvatore Adamo. C'est parti.
France Inter. Charline Vaninacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Allez, on fait tous une ola.
On vous attendait.
Oh là là, je peux vous dire.
Parce qu'on a déjà eu des Belges. Vous, non.
Il est sicilien aussi.
Oui, c'est vrai.
Salvatore Adamo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous présenter votre 26e album. Oui,
tout augmente, d'accord, mais c'est 25e.
C'était celui d'Hervéville. Vous écoutez, si vous l'avez ajouté.
Celui en japonais, il compte pas. C'est juste la traduction.
C'était pour voir si vous étiez vigilant. Et cet album s'appelle Si vous saviez, trois petits points. Mm-hmm. Alex Vizorek.
J'ai envie de vous faire un petit cadeau. Sur une radio française, de première écoute, passez ceci.
On a parlé ou on a gagné. Sa vie de famille, on n'y peut rien. On n'aime pas toi de ce village. Pour nous, c'est plus bio des langages. On est borné, ça rardéo, on rosigne.
C'est ces cailloux.
On peut traduire maintenant cette langue qui ressemble un petit peu au ch'ti parce qu'on n'est pas loin.
Absolument. J'ai enregistré hier, pour ne rien vous cacher, le petit quinquin en ch'ti. Et j'étais étonné par la proximité du patois ch'ti et celui de chez nous, n'est-ce pas?
Exactement, le borinage. Et donc la chanson dit on est brun ou on ne l'est pas, ça vient de nos parents.
Peut-être ça ne se faisait plus dans votre enfance, mais dans la mienne, on s'appelait encore, entre copains, Webiloot. Alors, même au borinage.
Moins, mais c'est sûr que c'était juste à côté.
Et juste avant.
Dans le borinage, si vous voulez, tout se fait en fonction de la maison d'Adamo.
Peut-être que pour l'auditeur, il faut expliquer ce que c'est
région,
que le borinage.
C'est une région de la Belgique et quand on demande...
Du côté de Mons,
voilà, quand on demande
pas
le
loin
chemin,
de la frontière française.
Les gens disent,
fond.
Tu vois la maison d'Adamo, c'est sur le droite. Et donc voilà, je voulais vous replacer dans cette belgitude-là et dans cette immigration italienne-là. Et 50 ans plus tard, vous avez fait 25 albums. Comment on se renouvelle? Comment vous vous remettez comme ça le dimanche avec votre guitare et vous dites, je vais me réécrire une petite chanson?
Eh bien, c'est pas moi qui le décide. Je n'y peux rien.
C'est madame qui vous met des coups de pied aux fesses.
Non, non, mais
c'est le banquier.
L'idée de la chanson, elle me vient où que je sois.
Parce que des thématiques, vous en avez déjà brassé. Ouais,
donc, c'est juste une question de curiosité et d'empathie et d'intérêt de la vie, quoi. Ne pas se cacher dans une tour d'ivoire, tout simplement s'intéresser à ce que les autres font. Et ça va mieux depuis que je suis devenu myope, et j'ai des lunettes pour voir de loin, et je vois mieux les autres maintenant.
C'est vrai. Vous avez jamais été à vous regarder le nombril non plus.
Pas trop.
Sur ce dernier album, le mot qui revient souvent quand j'ai lu les critiques, c'est le mot, on découvre espiègle. Nous, on savait un petit peu ça, mais est-ce que vous avez souffert qu'on ne vous voit pas assez cette facette-là?
Mais c'est étrange, parce que dans mon répertoire, j'ai quand même des chansons qui la montre, cette espièglerie.
Vous permettez, monsieur,
déjà. Les filles du bord de mer, j'avais fait le barbu sans barbe. Non, mais même en classe, déjà, j'ai retrouvé un vieux bulletin où, en toute modestie, j'ai 10 partout et j'ai 0 en discipline. Parce que je ne ratais jamais une occasion de faire rigoler un copain, quitte à mettre un peu le professeur en boîte.
Oh, ouais. Super.
Ça m'est arrivé, ça.
Bon, vous êtes bien
tombé. Mettez le bazar, Salvatore Adamo. Le coquinou Adamo, donc espiègle, est avec nous. On va parler de la nation de talent qui s'étudie au Collège de France, parce que le talent, ça prend aussi de l'importance dans le monde du travail, le monde managérial, et le talent aussi, ça s'achète, ça se monnaie. Alors déjà, comment se rendre compte qu'on a du talent?
Figure-toi, moi, je vais faire quelque chose sans importance. Je vais prendre des vacances, toute seule, sans toi, qui me fait chier et merde.
Attends, Brigitte, calme-toi. Hein. En ce moment, tu es fatiguée. Alors, tu vas monter, tu vas prendre deux cachets, tu vas te reposer, et puis on discutera tout ça quand tu seras calmée, plus hystérique, d'accord?
D'accord, dans 15 jours, si je reviens.
Gigi, merde! Si t'es pas capable de comprendre que j'ai énormément investi dans cette course, et c'est quand même effarant de faire 20 secondes de plus qu'un entraînement.
Mais ce qui est effarant, c'est que tu sois même pas capable de réaliser que ton pote ait pu se tromper en te chronométrant. Alors ça te passe au-dessus du cigare, hein? Mais t'es pas capable de faire 35 secondes au slalom. T'es mauvais.
Et voilà, les bronzés font du ski. C'est à lire sur le site des Inrocks, cet article « Qu'est-ce que le talent ?». Il y a un sociologue qui s'appelle Pierre-Michel Menger qui en propose une analyse limpide. Et il a donné cours sur ce sujet pendant 2 ans au Collège de France. Il essaye de définir ce qu'est le talent. Et il dit notamment il y a aussi une notion de compétitivité qui peut être un révélateur ou un moteur du talent. Et j'allais vous demander, Salvatore Adamo, vous rêviez aussi d'être footballeur, donc la compétition, ça vous titillait. Vous avez été découvert lors d'un radio-crochet où il a fallu être le meilleur quand vous aviez 16 ans. Comment vous êtes rendu compte que vous aviez du talent? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit? Est-ce que vous sentiez une vibration? Comment ça s'est passé?
Mais là, justement, l'important, c'est est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a du talent? C'est déjà une grosse prétention au départ. Donc il faut sans doute avoir des gens autour de nous qui peut-être à un moment donné vous font remarquer que vous dessinez bien ou très bien. Et moi, dans les petites fêtes de famille organisées dans la cité où je vivais, j'étais plutôt en retrait parce que j'avais déjà la voix cassée. Et les enfants de mon âge, des autres Italiens, ils avaient des belles voix très claires. Et chaque fois, je faisais un flop, moi. Il a fallu peut-être que je commence à écrire mes textes pour un peu sortir du lot.
Singulariser,
exactement, c'est le mot que je cherchais. Et la première fois que j'ai chanté en public, c'était sur la grande place de Jemmapes. J'ai gagné 2 kilos de chocolat. Ça a été un premier encouragement, mais étais-je déjà convaincu que j'avais du talent? Certainement pas. Il a fallu attendre 4 ans pour que j'aie une vraie confirmation avec un vrai concours où les copains de classe m'avaient encouragé à me présenter.
Un concours, donc, oui.
Oui.
Donc, d'où la compétition. Oui.
Mais la compétition, c'est pas forcément le fait de battre les autres qui est important. C'est de passer, tout simplement. C'est de reconnu.
Et de se comparer aussi, oui, d'apprendre des autres.
Et voir si le petit don qu'on a correspond à ce qui fait qu'on peut devenir connu. Tout
mais Brel disait que le talent, c'était 90% de travail. C'est aussi un talent de se rendre compte qu'il faut travailler.
Et comment?
Non, mais c'est vrai. Oui,
il faut Gaston avoir Lagarde ce sort de ce corps.
Non, mais c'est vrai.
Mélanie Bauer. Alors, un disque aux couleurs de France Inter, car vous ne le savez peut-être pas, Salvatore, mais nous nous sommes tous ici prêtés à l'exercice de la photo avec un accessoire rouge. Mais là où vous êtes très fort dans l'autodérision et la légèreté, c'est que vous, vous avez posé pour le livret de votre disque avec des maracas rouges. Et j'invite les auditeurs à acheter votre CD plutôt que de le télécharger, rien que pour cette série de mouvements déjantés que vous inspirent ces deux énormes testicules. N'ayez pas peur.
Hein, il n'y aura pas,
il n'y aura pas d'autres moments vulgaires dans cette chronique. Je suis
non, mais vous êtes
gentille. Et c'est bien là le propos de ce disque. Vous êtes le gentil de la chanson française, échappé des yéyés et de leur traduction de titres américains pour devenir celui qui savait dire « je t'aime » comme un Italien. Sauf que, si on se penche sur votre discographie, on s'est dit que vous n'étiez pas le gentil romantique à fleurs que tout le monde se plaît à aimer ou à mépriser. Par exemple, si l'on prend votre énorme tube « Tombe la neige » en 1964, qu'Alex pourrait nous chanter à tout moment.
« Tombe la neige »
Eh bien, sur la face A de ce 45 tours, le deuxième titre s'appelle « J'ai raté le coche » et on peut pas dire que ce soit vraiment une chanson d'amour.
J'ai raté le coche, c'est ça qui est moche. J'avais les poches pleines d'espoir, mais non, c'est moche, je vois tout noir. Mais ça gavroche sous toute sa gloire, t'es qu'un fantoche, t'es qu'une bonne poire.
Bon. On peut pas dire non plus que vous ayez raté le coche, hein, des millions d'albums vendus, une carrière internationale avec des chansons dans toutes les langues et avec cet air de ne pas y paraître, ce je ne sais quoi d'inoffensif, vous avez conquis le monde, oui, car on ne se méfie pas des gentils. On peut sans peur leur confier nos économies ou pire, on leur fait confiance pour nos moitiés. Sauf que ces gentils romantiques en profitent et ni vu ni connu prennent une guitare et chantent tranquillement en duo avec votre femme. Juste un je t'aime.
Juste un je t'aime. Payez-vous ce cadeau. Ces mots suprêmes qui font voler si haut.
Je n'invente rien, Camille, en harmonie avec vous sur cette chanson du nouvel album, est bel et bien la femme de Clément Ducol, le co-réalisateur de votre album. Oui, méfions-nous des gentils. Regardez Guillaume Meurice, un gentil révolté à l'idée que l'on mange des petits lapins et de gentilles poulettes. Eh bien, il fait passer tous les jours sur France Inter des messages révolutionnaires, comme le droit à la paresse et l'argent pour tous. Je le dis aux cyniques, aux branchés, aux machos de toutes sortes, sous la fleur bleue de Salvatore Adamo se cachent des racines siciliennes et l'humour sauvage du Belge nourri au second degré. On se croit avec lui en sécurité, avec ses mélodies et ses violons, mais à tout moment peuvent surgir les filles du bord de mer.
Les bords de mer, j'étais faite pour qui
Alors pourquoi je me permets de vous dire tout ça, Salvatore ? Ça ne me paraît pas très gentil, mais c'est tout simplement car vous le dites vous-même sur votre nouvel album, si vous saviez, vous créez le doute. Suis-je celui qu'on croit ? Eh bien, ce n'est pas sûr pour ma part. Je ne suis pas dupe de votre sourire charmeur de septuagénaire. Je sais qu'il y a plus d'un homme dans vos chansons et je propose d'ailleurs à nos auditeurs d'écouter cette confession.
Que tu demandes là, mais plus encore ne le comprends-tu pas? Quelle drôle d'idée de vouloir vivre avec moi, alors que moi-même je n'y parviens pas. Tu me plais, mais est-ce bien nécessaire? Nous risquerions de tout fiche en l'air. Aimable, oui, mais j'ai mon caractère. Un rien parfois, et je pique ma colère. Méfie-toi. Y'a pas plus gentil que moi, on dit ça. Mais suis celui qu'on croit. Méfie-toi de tous mes autres moi. Méfie-toi. Je suis multiple, j'ai des disciples qui font des tas de choses pour moi dont je ne réponds pas. Méfie-toi, les gentils salauds voient. ça file entre les doigts, méfie-toi. C'est bien pour toi, mon amour, et juste parce que je t'aime, que je te tiens ce discours, pour t'éviter les problèmes. Un jour, tu ne sauras même plus sur quel pied tu vas danser. Vivre avec moi, comprends-tu? Mieux vaut ne pas y penser. Méfie-toi, y a pas plus gentil que moi. Méfie-toi. C'est pas la lune que tu demandes là. Crois-moi mon cœur, tu tomberais, dis-nous. Dans tous mes mois et dans tous leurs émois, t'aurais juste envie de me vendre au surplus. J'en ai brisé des cœurs bien malgré moi, avec des fleurs et toujours de bonne foi. Je jure, on ne peut plus sincère, mais à chaque fois un sort qui opère. Je crains très fort, mon amour, que nous serions à l'étroit. Je suis sûr qu'à longueur de jour, un de ces types qui vivent en moi viendrait te faire un discours sur ta façon de t'habiller, ou alors sur ton humour qui parfois me fait pleurer. Méfie-toi, y a pas plus gentil que moi, on dit ça. Mais suis celui qu'on croit, méfie-toi. De tous mes autres, moi, méfie-toi. Je suis multiple, j'ai des disciples qui font des tas de choses pour moi dont je ne réponds pas. Méfie-toi, les gentils salauds. Ça file entre les doigts, méfie-toi. Suis-je bien celui que tu crois? Méfie-toi. Y a pas plus gentil que moi, on dit ça. Mais suis-je celui qu'on croit? Méfie-toi, méfie-toi.
Toi, il n'y a pas plus gentil que moi, c'est le titre de Salvatore Adamo qui est avec nous pour ses florilèges de Noël, une émission qui date de 2018 et qu'on a plaisir à réécouter. Et puis avec lui, on avait aussi parlé football.
Ah, voilà. Enfin, un sujet sérieux dans cette émission.
Bien sûr, football et puis un petit sketch avec Salvatore.
Ça, c'est bien.
Allez, restez. Ce dernier sujet avec vous qui êtes fan de foot, Salvatore Adamo, c'est le héros italien à la longévité exceptionnelle qui ne gagnera jamais la Ligue des Champions. C'est Gianluigi Buffon, le gardien de la Juve, qui s'est fait sortir sur carton rouge hier soir contre le Real Madrid. Acte manqué, provoqué, tiens, demandons l'avis des supporters.
On chante l'arbitre ! On chante l'arbitre ! Un travailler, enculé !
D'avoir perdu, c'est un sale coup pour le club.
Tu m'étonnes ! Pourri ! On va te faire payer, pauvre con, va!
C'est à cause de cette ordure.
Enculé! Ordure!
Ordure! Il n'y a pas d'autre sortie, hein!
Mais stop!
Dans les tribunes! Et fais gaffe! Et va voir la gauche, je te dis! On chante, l'arbitre!
À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky. Alex, je vous laisse ce sujet.
Mais oui, je sais que vous aimez le foot. Alors, d'abord, en tant qu'Italien, qu'est-ce que vous allez faire cet été? Et la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai. En 5 mois, Buffon a été écarté de la Coupe du Monde et de la Champions League.
Mais j'imagine que c'est le genre de joueur qui vous plaît parce que c'est quelqu'un qui donne envie un bon joueur. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que
il est charismatique.
Voilà.
Et hier, on a parlé de talent tout à l'heure. L'arbitre a joué sa partition implacablement, mais il a manqué d'un peu de talent. Et d'intuition, parce que quand même, il devait savoir avant le match que pour Buffon, une élimination était sans doute synonyme de dernier match de sa vie, peut-être.
Est-ce que ça fait pas aussi l'histoire du foot, ces histoires-là? C'est-à-dire que, paf, la carte rouge...
Oui, ces injustices rallument la flamme de ceux qui ont été lésés.
Les filles rigolent, mais j'imagine que vous avez une première image du gamin qui regarde le football. On en a tous une, c'était quoi la vôtre?
Moi, c'est à Je Map, tenez-vous bien, en 1954, Nous n'avions pas de télé chez nous, bien sûr, mais il y avait le marchand d'appareils électriques, Novita, je crois. Et c'était le match Allemagne-Hongrie, où il y avait les fameux Puskas, Coxis, et devant l'étalage de cette boutique, il y avait un attroupement de gens qui levaient le cou pour voir un peu en noir et blanc le match qui s'est terminé par 7-4, je crois, pour la Hongrie, le match en qualification. Et la Hongrie a réussi à perdre en finale contre la même Allemagne, 3-1. Quelques semaines après.
C'est, tous les hommes ont une image de football.
Et voilà.
Je savais qu'on allait avoir une bonne réponse.
Et Gigi Buffon qui s'en va sur un carton rouge. C'est romanesque.
C'est dommage.
Salvatore Adamo, vous avez fait un petit peu de cinéma. Alors on va revenir à votre métier de comédien si vous voulez bien.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qui le découvre.
Prenez vos lunettes, chaussez-les à l'aise.
Je vous ai donné un rôle de président, Salvatore Adamo.
Où sont les lunettes de Salvatore? Attention.
Attention, ça.
Est-ce qu'en régie,
3 dioptries et demi.
Personne ne s'active, hein.
Les lunettes arrivent.
Ça me laisse le temps d'expliquer le sketch parce qu'évidemment, c'est l'info du jour. Macron qui se fait interviewer par Jean-Pierre Pernaut. Comment ça s'est passé? Vous êtes le président Macron. Salvatore Adamo. Guillaume Meurice, c'est votre conseiller. Je vais faire Jean-Pierre Pernaut et Charline est la petite élève dans la classe de primaire.
Allez, président, faut y aller là, vous avez école. Hein.
Tu vas faire quoi dans ma classe?
Oh, pas grand chose, juste raconter des carabistouilles.
Attendez, président, ne dévoilez pas tout de suite vos éléments de langage. Hein.
Vous avez raison, rappelez-moi où on va.
Au JT de Jean-Pierre Pernaut.
Il faudrait que je donne mon avis sur les producteurs de Chabichou Cendré.
Non, on sera en direct d'un village normand.
Ah, ça sent le reportage sur les artisans du camembert moulé à la louche.
Tu trouves que le camembert, ça pue?
Ah, je n'ai pas dit ça.
Tu trouves que le camembert, c'est un fromage pour les ploucs?
Conseiller, rassurez-moi, les questions de Jean-Pierre Pernaut seront plus agréables, n'est-ce pas?
Vous n'avez rien à craindre, ce sera une interview sans journaliste. Hein.
Monsieur le Président, vous avez bien reçu mes questions?
T'es qui, toi?
Jean-Pierre Pernaut.
Ça veut dire que t'es alcoolique? Tu connais Jean-Vincent Placé? Oh.
Monsieur Pernaut présente le JT le plus regardé d'Europe.
Non! J'ai envie de faire pipi.
Non, ça c'est dans le sketch de mardi.
Ah,
bon, alors reprenons. Monsieur Pernaut, nous avons bien reçu vos questions, donc.
Elles sont excellentes.
Merci, monsieur le président. C'est Bruno Roger Petit qui les a écrites.
Ça, alors, depuis qu'il ne fait plus journalisme, Bruno Roger est devenu un excellent journaliste.
Ah ben, on le paye assez cher pour ça, d'ailleurs.
Mais j'imagine qu'il y a une ou deux questions embarrassantes. Quand
bien
même.
Sûr, et celle-là, je vais les poser aux cheminots privilégiés qui bloquent le pays en ce moment.
Mon papa, il est cheminot.
Ah, attends, elle devait pas faire pipi, celle-là?
Non, ça c'était dans le sketch de mardi. Ah.
Écoute, sois gentil, va plutôt réviser tes leçons pour monter ta start-up, hein, quand tu seras grande.
Il a raison, hein, ici on parle entre adultes.
Dites, c'est normal si ça me gratte?
Ah, c'est le monde rural, hein, monsieur le président.
Non, je crois que c'est depuis que je suis rentré dans cette classe.
Il y a des poux.
Je ne comprends pas pourquoi une interview dans une école primaire.
Ça vous plaît pas?
Mais c'est pas un peu bizarre quand on veut s'adresser à des retraités?
Ah, et dimanche, oui, j'ai oublié de vous dire, on va chez Mediapart pour s'adresser aux gens de droite.
C'est tellement disruptif. J'adore.
On est bien dans cette émission, je trouve, avec Salvatore Adamo.
Oui, bah, restons-y.
Bah voilà, ok,
voilà,
très
parce
bien.
Que je vous propose la chronique de Guillaume Meurice, qui s'était rendu au grand congrès des maires d'Île-de-France. Qui avait envie de faire venir les gens en région parisienne, comme si ça manquait de monde. Donc voilà, il est allé à leur rencontre.
Oui, chronique spéciale pour les ploucs aujourd'hui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter de la cambrousse. On a eu les audiences, hein, les podcasts cartonnent. Qu'est-ce que ça va être quand vous aurez Internet, hein? Vous allez voir, ça va vous changer du 3615 France Inter. Parce qu'on le sait, évidemment, dans les campagnes, vous rêvez tous de venir habiter en région parisienne. Hein, ça, c'est normal, parce que c'est là où se situe le centre du monde, matérialisé par le nombril d'Alex Vizorek. Hein, c'est sa maman qui me l'a dit. Et puis Paris, voilà, c'est le rêve, c'est l'histoire aussi. Paris, hein, c'est là où est née, par exemple, Clara Dupont-Monod, sous le règne de Louis V, dit le boutonneux, avec laquelle elle a eu une liaison avant d'enfanter Pierre Gattaz, mais vous connaissez tous l'histoire mieux que moi. Et en plus, Jean des campagnes, Macron est en train de vous laisser crever. Hein, il vous savate la justice, il ferme les écoles, il baisse les dotations. Et en plus, il va faire le SAV chez Jean-Pierre Pernaut, donc le gars se fout littéralement de votre gueule. Hein, pour faire la promo du steak de cheval, il irait sur Equidia. Pour les économies sur les salaires dans le service public, il irait chez Nagui. Il s'en fout complètement. Alors venez, voilà, venez en région parisienne pour vous donner envie. Je suis allé ce matin au Grand grand congrès des maires d'Île-de-France qui avait lieu à La Villette. Et pour vraiment vous donner envie de venir habiter chez nous, pourquoi pas par exemple Garges-lès-Gonesse, j'ai rencontré le maire.
Venez et vous verrez.
Ah d'accord.
Venez, vous verrez. Garges-lès-Gonesse, ça ne se discute pas, il faut voir. Et ceux qui viennent, en principe, nous demandent de rester.
Oui, notamment la police judiciaire hein, qui vient régulièrement à la mairie dans le cadre d'une enquête sur les marchés publics illégaux, disent-ils, hein, parce qu'en réalité, c'est juste qu'ils aiment bien la ville. C'est juste à côté du Bourget et de Roissy. Et franchement, quoi de mieux qu'un peu de kérosène sur vos chocs à pic le matin. Alors, puisqu'on parle de Roissy, j'ai rencontré des gens de la collectivité d'un autre Roissy, Roissy-en-Brie. On a tous envie d'y aller.
Alors Roissy-en-Brie, c'est une collectivité bien placée, à côté de l'autoroute, avec plein d'atouts et un potentiel de développement énorme.
Ouais, mais là ça donne plutôt envie de crever là.
Non, il faut venir, vous viendrez nous voir à Roissy-en-Brie,
vous verrez. Bah non, là, non, vous me dites à côté de l'autoroute, ça me fait peur moi tout ça.
Non, c'est une super collectivité.
Voilà, faut aimer les autoroutes hein, essentiellement, hein, c'est vrai que bon, moi par exemple j'ai entendu pas mal de fois dans ma jeunesse mes parents dire « Est-ce que tu peux aller jouer au Lego sur l'autoroute ?» C'est vrai que pour un avortement tardif, ça peut être utile. Alors puisqu'on parle de route, autre commune attractive, Villiers-sur-Marne.
Nous, notre commune, elle a cette particularité. On est à 25 minutes de Paris et 27 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle, 20 minutes d'Euro Disney également.
Donc l'intérêt de votre commune, c'est qu'on peut se barrer facilement, en fait.
Mais, écoutez, il y a 40% des ventes qui se font actuellement dans la ville sont des Parisiens.
Oui, d'où l'intérêt d'avoir des points de fuite, c'est important. Mais en même temps, si vous fuyez les Parisiens pour venir à Paris, c'est un peu con. Hein, c'est comme si vous fuyez les groupes de ska islandais pour arriver chez Melanie Bauer. C'est pas une bonne opération. Une autre ville bien sympatoche qui permet de s'échapper, une ville qui est où ?
Qui est à une trentaine de kilomètres de Paris, à peu près, hein, en moyenne.
Ça fait combien d'heures en embouteillage, ça ?
Alors, ça dépend des jours. Au mois d'août, vous mettez 20 minutes pour aller à Porte de Bercy. Et en temps normal, il faut compter entre 45 et 1h30.
Ouais, c'est pas excessif. Ça vous fait 3 heures de trajet par jour aller-retour. Faut aimer la bagnole, hein. Mais bon, je sais que voilà, parmi nos auditeurs, il y a des dingues d'embouteillage hein, qui nous écoutent. Des gens qui connaissent par cœur le péage de Saint-Arnoux, le triangle de Rocancourt. Charline, je sais que vous adorez ça. Ouais, je sais, vous avez les vignettes Panini de ce genre d'endroit. Et alors d'ailleurs, on n'a pas dit comment elle s'appelle cette ville ?
Annette-sur-Marne.
Annette-sur-Marne.
Voilà, en Seine-et-Marne.
C'est mignon comme nom de ville.
Oui, c'est mignon, oui.
Qu'on pourrait imaginer un jumelage avec Gif-sur-Yvette.
Bonne question.
Non, parce que j'imaginais Annette-sur-Yvette.
Dans le cadre du mariage pour tous, c'est ça ?
Oui, parce qu'il faut rigoler aussi. Oh, non, mais c'est important, la région parisienne, c'est l'humour. Hein. Il y avait possibilité de jumelage avec Bourg-la-Reine. Ah, vous l'avez compris ? Ouais, avec Poil. J'en ai plein. Si vous avez d'autres idées, envoyez hein, d'ailleurs votre contribution sur le hashtag TexRevient. Ils sont devenus fous. Et puisque je sens que vous aimez la rigolade, j'ai rencontré également ce matin le maire de la commune de Houille. Eh oui, le fameux merdouille, il était là. Alors, qu'est-ce qu'il pense de tous les jeux de mots bien sapatoches qu'on peut faire sur sa ville ?
C'est mon lot quotidien, mais je suis quand même très fier d'être le maire d'une si belle ville. Ville sportive, ville de la corrida de Houille.
Meilleur palmarès, la fameuse corrida de Houille.
Meilleur palmarès au monde des courses sur route. Et puis on a le départ de la dernière étape du Tour de France. Non, c'est une ville qui bouge.
Houille, le Tour de France part en Houille, on peut dire.
Oui,
bon, moyennement validé, ça, j'apprécie. Alors, c'est pas facile de trouver, tout a déjà été fait sur Houille, hein, voilà. Et puis je vais vous dire, même le maire, il en a marre de tout ça.
Sur Houille, j'en ai tellement entendu, mais je me dis, tout le monde pense à Houille, mais il y a d'autres villes, il y a plutôt Aigarche. Ça a l'air de rien comme ça. Mais commencer un discours républicain en disant « fils de puteau, enfant de garche ».
Et alors ? On est pas mal là en termes de rigolade ou pas ? Laissez-nous le week-end, on monte un cabaret avec le merdouille. Hein ? Ouais, évidemment. D'ailleurs, on prendra Macron. Il y a une petite expérience de la danse du ventre, hein, de la séduction, vu qu'il préfère passer sa vie en campagne plutôt que de leur venir en aide.
When you call, I wish I could know how you melt in my snow, make my heart do wrong. I don't need your love, but the one that the sunshine on winter day. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face.
One, two, three, oh.
I'm missing in Georgia.
out. I'm just trying to be even. She don't even. Eventually I lose my balance. I don't need your love, but I'm addicted like you are to designer clothes. I don't need your drug, but I'm feeling, hoping I don't overdose. You got me singing Georgia. Hope you ain't the money, 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 money. Love me, honey. I just hope you ain't the money, 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 money. Love me, honey. I just hope you ain't the money, 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 money. Love me, honey. You got me singing Georgia.
Georgia, un titre de Tixda Author sur France Inter, où vous écoutez les florilèges de Noël de par Jupiter. Et ce titre est comme une césure qui vient annoncer un changement d'invité. Nous allons poursuivre cette émission avec Anna Mouglalis.
Charline, depuis la rentrée, vous m'avez envoyé dans beaucoup de théâtres, vous m'avez semé beaucoup d'embûches, beaucoup de pièges.
Vous en avez vu des bouches.
J'en ai vu des bouches. Et j'ai demandé du coup aux invités de raconter l'histoire, comme ça voilà, le temps passe de la promotion.
Bah, et... Comme ça vous connaissez l'astuce, hein, chers auditeurs
et auditrices. Et effectivement, j'avais vu Art, et puis j'ai vu Mademoiselle Julie. Franchement, c'est les deux meilleures choses que j'ai vues depuis la rentrée. Strindberg, avec vous, Anna Mouglalis, et je vais essayer donc de bien vendre la pièce. Du coup, j'ai une première question, attention, ça c'est très très vendeur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce sadomasochiste?
Oui.
Bah oui, c'est vendeur, hein, comme ça.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est... Non, non, mais c'est vrai que c'est un ring, voilà, une espèce de combat, le sexe est au cœur de la pièce. Mais il y a eu des mises en scène qui appuyaient beaucoup là-dessus. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a toujours la possibilité de l'amour entre les deux personnages. Si c'est joué vraiment comme un combat perdu d'avance, bon, c'est dommage que ça dure une heure et demie.
C'est quand même le championnat du monde du pervers narcissique, les deux.
Non, je suis pas complètement d'accord. Non, parce que en fait les deux se cognent surtout contre les conventions sociales. Et c'est pour ça que la pièce elle est d'une actualité folle, que ce soit enfin sur voilà la lutte des sexes, parce que bon, il faut l'admettre, c'est quand même vraiment la guerre. C'est ce qui est incroyable dans cette pièce qui date quand même du 19e. C'est une pièce qui montre une femme désirante. D'ailleurs, alors ça a fait scandale, ça a été censuré. On y parle des règles. Non, mais c'est incroyable parce que Strindberg, en plus, on en a fait un misogyne fini. Alors que bon, la pièce n'est pas ça. Il y a de la misogynie dedans. Mais elle est folle, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Anna Mouglalis avec nous. Ah. Et on va parler d'un philosophe et d'une écrivaine qui accueille des réfugiés et qui propose de regarder l'immigration en face. Et en face, ça veut dire aussi par les mots employés. Les partisans du rejet nous parlent de flux, de courants, de vagues, de submersion migratoire, quand ceux qui se noient, les poumons remplis d'eau, eux, sont des réfugiés.
Le noir, je l'ai vu dans son jardin.
Attends, Fabienne, de qui tu parles, là?
Les voisins, le noir.
Enfin, tu pourrais t'exprimer autrement, quand même.
Enfin, tu comprends pas? J'ai vu le noir, le voisin.
Oui, si, oui, j'ai très bien compris, je t'ai bien pris, mais justement, c'est ça que je te reproche.
Enfin, bonsoir, ne le fais pas exprès, quoi. J'ai vu le noir, le noir, le noir, monsieur le noir. Je l'ai vu dans son jardin, tu vois de qui je parle?
Oui, voilà, monsieur le noir, plutôt que le noir, je préfère ça, oui.
Bon, bah alors, monsieur le noir, plutôt que le noir, si tu veux, creuse un trou dans son jardin.
Et alors?
Il creuse un grand trou dans son grand jardin.
Et alors?
C'est un malade.
Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. C'est un article à lire dans Les Inrocs. L'écrivaine Marie Cosnet et le philosophe Mathieu Pot-Bonneville publient un livre qui s'intitule Voir venir sur la nécessaire hospitalité. Alors, ils accueillent des migrants et aussi ils prêtent attention aux mots qui sont employés. Donc, comme j'ai dit, ils ont remarqué effectivement qu'on parle de flux, de courants, de vagues. Pour ceux qui sont démagogues et nous disent qu'on est submergés, alors que ceux qui sont submergés sont quand même les migrants. Est-ce que tout le vocabulaire autour de ce drame humain, est-ce que vous le regardez avec acuité ?
Il y a un petit livre qui s'appelle « La langue de la Ve République » de Hazon,
ouais.
qui est formidable, qui date hein, déjà. Mais pendant longtemps, on parlait de la question palestinienne. Maintenant, mm-hmm. c'est devenu le problème palestinien. On voit bien qu'il y a une question, il y a plusieurs réponses.
Ouais.
À un problème, il y a une solution. Ça semble être juste des mots, mais c'est en fait, les mots sont, la parole est vraiment active, performative, et elle conditionne complètement les gens. Donc, c'est à travers ces glissements de vocabulaire, on désinforme.
Mm-hmm.
Et c'est incroyable, parce qu'on a tous été, en fait, complices des drames en Méditerranée. L'Europe a décidé de confier de l'argent, en fait, à la Libye.
Mm-hmm.
L'Europe ne peut pas confier de l'argent à un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et plus personne ne sauve les migrants en mer. Alors, heureusement, SOS Méditerranée est reparti.
Oui.
Bon, il y a plusieurs associations qui sauvent des migrants en Méditerranée, mais qu'on empêche de travailler normalement.
Et qui sont criminalisés aussi.
Donc, on laisse mourir les gens.
Vous vous appelez Anna Mouglalis. Vous avez des origines grecques, j'imagine.
Oui.
Donc, c'est arrivé dans votre histoire familiale d'avoir un exil, un déracinement.
Bien sûr. Oui, ma famille vient de Grèce. Elle a fui la guerre. Elle est arrivée dans le sud de la France. Elle a remonté jusqu'à Nantes. Bien sûr. Mais je pense qu'on a tous... des histoires, on a...
Vous avez vos papiers quand même
ouais. Et voilà. Non mais même ça, il y a un jour il faudra se poser la question, quoi, cette histoire des papiers, il faut relire Bernanos, il écrit La France contre les robots, il parle d'une époque où on n'avait pas besoin d'un passeport pour se balader, non mais accepter cette chose-là, les prises d'empreintes, la photo de l'œil, c'est ahurissant. Les gens qu'on arrête et qu'on met dans des centres de détention sont des gens qui n'ont pas commis de crime.
Mmh.
Ils ont juste pas de papier.
Vous allez finir chroniqueuse sur France Inter.
C'est vrai.
Je parlais trop.
Non, pas du tout. Comme quoi, on a bien fait de choisir ce sujet avec
investi.
Vous. Et effectivement, vous choisissez les mots. Cette discussion avec Anna Mouglalis date de 2019, ça n'y a pas si longtemps. Alex,
oui.
On va revenir en 2021.
Cette fois, on refait le petit saut en avant pour écouter l'un de nos derniers arrivés, Aymeric Lomprey, mais vous l'aimez déjà. Allez, on écoute.
Bonjour à tous, vous allez bien ?
Ouais !
J'ai rien entendu !
Ouais !
Non mais en vrai, j'ai vraiment rien entendu. Non mais... Non, j'ai une grosse gueule de bois lundi. Voilà, j'ai confondu les cotons-tiges et les cure-dents. Alors si j'ai un morceau de salade coincé dans les oreilles, vous me le dites très fort dans les dents. Hein. Bon, j'ai écrit ça, j'étais vraiment mort de rire. Non, mais j'ai encore fait la Java ce week-end. Ouais, je suis vraiment Java man. Moi, je vais mourir dans une marmite de Java. Enfin, j'ai pas vraiment fait la Java. J'ai fait une expo à Lille. Donc c'est un peu la Java. En plus là, c'était une exposition sur la bière. Alors c'est comme une exposition parisienne avec des tableaux où les gens ils font ouais, il est beau ce tableau. Sauf que là, c'est à Lille avec de la bière. Et les gens ils font il est beau ce gamin. Donc du coup je suis un peu en descente. Je crois que j'ai fait trop de culture. Faut que j'arrête de voir parce qu'en plus ça me fait grossir. La dernière fois j'étais en tournée à l'hôtel et je dis ah chouette, un miroir grossissant pour les points noirs. C'était pas un miroir grossissant. Par contre c'était vraiment des points noirs. Alors mais c'est pas de ma faute si je bois, c'est parce que je suis triste. J'ai réécouté toutes mes chroniques sur le site de France Inter. C'est chiant maintenant, il y a des pubs tout le temps maintenant sur le site. C'est chaud de s'y retrouver. T'as 30 secondes de pute pour la banque postale et 3 minutes de Nicole Ferroni contre le capitalisme. Du coup, France Inter, ils ont fait un choix. Ça va, Nicole, ton nouveau taf à la banque postale? Et non, mais en réécoutant mes chroniques, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, ça change pas du tout le monde. Voilà. Alors, soit elles sont nulles, soit France Inter, c'est pas écouté. Mais bon, comme c'est la première radio de France, je ne comprends pas. Alors, moi, je suis venu à France Inter, c'est pour faire bouger les choses.
Oui.
Hein, voilà. Et le seul truc qui a changé, c'est que maintenant, je me fais insulter sur les réseaux. La dernière fois, on m'a dit, vous ne valez pas mieux que Guillaume Meurice. J'ai chialé pendant une semaine. La dernière fois qu'on m'a dit un truc aussi méchant, c'était, vous faites du Guillaume Meurice. Non mais par exemple, j'avais fait une chronique où je disais que la réforme chômage c'est injuste. Et ben vous croyez qu'Emmanuel Macron il s'est remis en question? Pas du tout, pas du tout. Il a dit dès que la crise est terminée, on fonce. Putain, j'irai jamais me baigner avec le gouvernement. Je coule. Ah ouf, un bâton. Monsieur le gouvernement, aidez-moi. Tenez le bout de ce bâton. Oui, d'accord. Merci. Y a pas de quoi. Je coule. Redonnez-moi le bâton. Non, c'est mon bâton. Si vous voulez, je vous le loue. Non, oui, merci. Y a pas de quoi. Attendez, je recoule. Ben, vous êtes vraiment un assisté, vous. Non, c'est parce que vous appuyez sur ma tête avec le bâton. Ah oui, pardon. Alors, j'ai fait une formation sur les métaphores la semaine dernière. La semaine prochaine, je vais faire une formation sur comment trouver une chute à une métaphore. Qu'est-ce qu'il disait dans la formation sur les transitions? Ah ouais. Alors. Non mais en plus, il n'y a pas que pour le chômage que mes chroniques n'ont rien changé. Pierre Ménès a retrouvé du taf, McFly et Carlito, ils sucent toujours Macron, les jeunes font la queue au Resto du Cœur, les vieux font toujours chier, il y a toujours des migrants au fond de l'eau, il y a encore la famine à Madagascar, et Charline n'a toujours pas montré ses tototes. Alors moi, si ça ne change rien, hein, si c'est pour être la caution clodo punk à chien de France Inter, c'est hors de question que je continue, hein. Le seul point positif de faire la radio, c'est que ça m'a permis de faire du sexe. Hein? Et ben oui, mais là, je laisse derrière moi toutes mes ex de la maison de la radio en pleurs. C'est une déchirure. Enfin, surtout pour elles. Non. Oh, elles s'en souviendront de leur stage de troisième. Non, mais aujourd'hui, c'est bientôt fini. Aujourd'hui, je vais faire un test, voilà. Je tente une chronique, et si ça change pas les choses, j'arrête plus. Je veux qu'à partir de maintenant, plus aucun média ne parle d'Éric Zemmour. Merde, j'en ai parlé sur France Inter. Bon bah à partir de maintenant, top. Et la semaine prochaine, on fait un bilan pour savoir si on a parlé d'Éric Zemmour. Merde. Allez, top. Merci de m'avoir écouté.
C'était le Lillois de la bande, Émeric Lomprey, qu'on retrouve très bientôt en direct dès la rentrée. Et nous, on va poursuivre la conversation avec l'actrice Anna Mouglalis, que nous avions reçue en 2019. On a eu envie de la réécouter, parce que c'était très amusant, et surtout, ne ratez pas le petit sketch avec Anna à la fin. Qu'il est doux de se laisser aller à regarder une série pour se laisser prendre la main sur le chemin de la narration. Sauf que certaines séries comme Lost ou Twin Peaks proposent une fin qui oblige le spectateur à sortir de la passivité. Une fin qui pousse à l'interprétation. Alors certains en sortiront frustrés, d'autres au contraire enthousiasmés par la réflexion. La fin ouverte, c'est aussi ce qu'on appelle, attention, l'esthétique de l'incomplétude. Démonstration.
Et où est-il ? Je sais pas. Je vais partir.
T'es libre ?
Je sais. Et où vas-tu ?
Oula.
Excusez-moi, monsieur le projectionniste, il y a une bobine qui a sauté, on est direct au générique, là.
Mais non, c'est la fin, là.
Ah ouais. Putain, ça marre mieux, moi, c'est social.
C'est nul.
Ah, c'est nul, là.
Extrait du Palmachot. Alors, c'est un article que nous avons trouvé dans les pages pensées de Télérama. Ce qui vous place le niveau. Mais on a trouvé ça intéressant. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans Mademoiselle Julie, mais on ne dévoile pas la fin, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. L'incomplétude d'une fin de série ou d'une fin de film, est-ce que c'est de nature à vous enthousiasmer, vous frustrer? Est-ce que ça dépend de l'œuvre?
Je vois ce que ça veut dire, mais je ne vois pas en quoi ça peut exister.
Une fin qui laisse ouverte, qui laisse un repos.
Voilà, non mais c'est dans les films d'Haneke, enfin dans plein de films. Ouais. C'est comme si on demandait tous les films ou toutes les séries ne sont pas des romans de gare avec une fin bien nette. Il y a aussi, c'est superbe d'ailleurs dans cette industrie, il y a aussi des séries qui sont un petit peu plus poétiques ou artistiques. On va pas demander à un poème d'avoir une réplique centrale et une conclusion ferme. Mm-hmm. La poésie, ça se conclut pas. D'ailleurs, ça s'arrête jamais.
Et ça vous est déjà arrivé d'aimer ou de détester une œuvre parce que la fin ne vous aurait pas plu?
C'est arrivé, oui, que j'ai pu trouver ça décevant. Effectivement, parce que ça pouvait fermer mon imaginaire. Ou certaines fois, on sent, mais même dans des grands romans, certaines fois, on sent que l'auteur est déjà en train de finir. Voilà. Oui. Mais autrement, non, généralement, je dissocie pas trop les parties.
Mais vous êtes plutôt équipe. Je suis d'accord avec la fin des Sopranos.
Mais alors, malheureusement, j'ai pas vu la fin des Sopranos. Non mais
bon, alors, je vous raconte.
Pas très bonne.
Alors, voilà, aussi forte que moi en série, donc ça vient.
Mais non, mais j'en vois pas. Mais ouais. C'est vrai que sur cette histoire de, parce que j'en ai vu un petit peu, et le fait que bon qu'on tienne comme ça le spectateur en lui disant attention, on va te raconter un truc, tu vas voir, et que ça passe au générique. espèce de principe, moi, m'énerve beaucoup.
Passons, il y a une chute, j'espère, à ce sketch.
Toujours ouais. En fin d'émission, Anna Mouglalis, nous proposons un sketch à l'invité pour qu'il joue avec nous. Alors, on vous a mis dans votre propre rôle, il y a toujours un lien avec l'actu. Peut-être vous avez entendu que le Théâtre du Châtelet allait lancer son propre parfum, qui s'appelle Acte 1, qui sent un petit peu l'odeur que devrait sentir le théâtre. Eh bien, une boîte de com, dirigée par Charline et Guillaume, vous a engagé parce qu'ils ont d'autres odeurs à vous proposer.
Bon, Anna, bienvenue dans la team Paris sans bon.
Ouais, alors nous on fait la pub de Paris à travers ses odeurs.
Hein. Ah. Bah oui, Paris c'est le luxe, la mode, le parfum.
Ouais, mais là c'est pas que ça. Bon, Anna, alors je vais pas te mentir, t'étais pas notre choix numéro un sur la liste.
Ah bon? Mais il y avait qui?
On avait d'abord pensé à Patrick Balkany.
Voilà, mais pas dispo.
Ouais, il fait une pause carrière.
Voilà, donc si Balkany est pas dispo, normal, on se retourne vers toi, quoi.
Merci beaucoup, vraiment.
Alors notre premier produit, c'est le parfum d'une salle de spectacle.
Pléiade? L'Olympia?
Non, le point virgule.
Le quoi?
Ouais, c'est le petit théâtre de 85 personnes, là où on peut vendre 160 places.
Voilà, c'est une fragrance plutôt sauvage et populaire, on va dire.
Hein? Mais ça sent bon?
Alors, on est sur des nuances de calembour et de porte qui claque.
Ah, mais ça veut rien dire, pardon, ça.
C'est une pub pour du parfum, quoi. Hein,
donc, ouais, alors voilà le texte. Alors, attention, vous êtes prêtes? Allez. Alors, à vous, musique.
10 camions? Quoi? Pouette. Je suis une femme comme les autres. Je fais tourner les serviettes. Quelle odeur. Mon parfum. Point virgule. Pareil.
Excellent, c'est exactement ce qu'on cherchait.
C'est super, ça marche tellement bien. On va te proposer une autre fragrance. Là.
Oui, c'est un truc bien parisien. Hein.
La Tour Eiffel.
Non, ça s'appelle Ligne 13.
Ah, vous êtes sûr?
Certain, l'odeur du métro, c'est une Madeleine de Proust pour les Parisiens.
Ouais, on est sur des nuances collées serrées de gens qui claquent, tu vois.
Ouais. Ah ouais, quand même. Bon, bah allons-y.
Ouais, alors voilà le texte. Allez, à vous, musique.
Éloignez-vous du quai. Approchez-vous de moi. J'aime la sueur. Le bruit du strapontin. Pardon, laissez-moi sortir. Regardez-moi. Mon parfum. Ligne 13.
Oh là là, c'est exactement ce qu'on cherche.
Bon, allez, une dernière fragrance à te proposer.
Ah ouais, ça va être quoi maintenant? Les toilettes de TGV?
Non, c'est bien mieux. C'est le lieu parisien où vont toutes les stars.
C'est quoi? Voilà. Par Jupiter?
Non, on est plus sur un lieu d'échange et de partage.
Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est le club libertin, les chandelles.
Quoi?
Ouais, on est sur des nuances talons aiguilles et le pot qui se touche, quoi.
Oui, bon, bah, j'ai compris.
Voilà le texte, musique, allez hop.
Vous êtes qui? Pardon, c'est pas vous que je cherchais. Vous êtes une femme? Pardon, messieurs. Laissez-moi seul, si vous pouvez. Mon parfum? Chandelle. Paris.
Oh putain, on va faire un carton! Alex, quelle chanson de Frédéric Fromin avez-vous choisie aujourd'hui pour nous enjailler?
Eh bien, une chanson sur un air que j'aime énormément, puisqu'il s'agit du Larousseau. Vous
oui,
connaissez, hein? Tu m'oublieras, deviens, tu mourras.
Frédéric Fromin, avec qui allez-nous vous fâcher aujourd'hui?
Eh bien, avec la primaire des écologistes, j'ai été très surpris d'apprendre la résurrection de cette chanteuse des années 2000, Larousseau. De son prénom Sandrine. Larousseau, qui a donc un message pour l'humanité. Tu mourras, tu crèveras, tu crois quoi? C'est pas ton naturalia, ton biocop, ton soja, ton tofu, ton quinoa, qui sauveront, calme ta joie, ton petit cul et trois pandas. Tu mourras, tu crois quoi? Qu'en supprimant les touillettes, tout en ayant 5 ordi, 10 smartphones et 15 tablettes, tu marches pas un chouïa durablement sur la tête. Tu mourras, révolté contre le réchauffement climatique que t'as toujours condamné à l'abri d'une terre chauffée. Tu mourras. Non mais vous vous rendez compte? Les présidentielles avec Jadot, Zemmour. L'écologie et le fascisme. Tu mourras, succomberas, agoniseras dans tes petits plats vegan qu'un pauvre type te livrera au guidon de sa bécane. Pétard à dente, tant pis pour le putain de bilan carbone. Tu mourras, cette pâte de peau, toi qui consommais pourtant que des produits locaux que tu commandais gaiement sur le net en trois clics au hasard chez Amazon. Tu mouriras avec toutes ces vedettes que le réchauffement indigne, que la sécheresse inquiète, pourront-ils remplir leur piscine? Tu mouriras, tu mouriras. Tu crois quoi? Qu'avec ta gourde, tu préserveras les palourdes. Qu'avec tes bocaux en verre, tu protégeras les ours polaires. Tout en guettant fébrilement le jour béni du Black Friday. Tu mouriras en musique grâce à des stars planétaires qui chanteront ces magiques pour la défense de la Terre. Même qui sont venus dans leur avion, leur hélico plein de kérosène. Tu mouriras, est-il vraiment écologique, foutre un bracelet électronique à Nicolas Sarkozy? Oui, car après ça on se dit qu'on peut mourir, mourir tranquille.
Ainsi s'achève cette émission sur un air de guitare. Oui. Comme tous les jours pour ces florilèges de Noël. On espère que vos vacances se passent bien, en comité restreint, bien sûr, et sans discothèque et tout ça. Mais bon, voilà. Justement, c'est l'occasion pour les florilèges de Noël de se replonger dans une époque où il n'y avait pas de Covid.
Tout à fait.
Et c'est ce qu'on va faire demain, d'ailleurs, en réécoutant avec plaisir l'émission avec la chanteuse Isabelle Aubray.
Oh là.
Et une autre émission avec le comédien Gilbert Melki.
Top.
À demain.